France Musique.
Jazz Collection pour France Musique, la série Jazz Piano, quatrième épisode proposé par Alex Dutille, les rafraîchissants Keith, Esbjorn, Brad et consorts.
When I was 2 years old, I played on the kitchen table with celery sticks. So my first instrument was the drums.
Keith Jarrett. Il m'a confié, un jour où je le questionnais sur sa place dans l'histoire du jazz, que ce qui lui importait le plus était de prendre place aux côtés d'Armstrong, Parker, Ellington, Coltrane ou Miles Davis. Ce sont 5 génies du jazz, m'expliqua-t-il, j'aimerais bien être le 6e. Folie des grandeurs? Pas si sûr. Folie de musique plutôt. Les excès de Keith Jarrett nous manquent aujourd'hui. Ces orgies de lyrisme, ces trans hypnotiques, ces grooves à la main gauche, ces sorties de scène sur un coup de sang pour une tour récalcitrante, ces improvisations à tombeau ouvert avec Gary Peacock et Jacques Dejonette, ces gémissements de plaisir au bout d'une phrase arrachée à l'inouï, debout devant son piano. Et oui, car selon ses dires, ces instants vocalisés sont comme une troisième main qui impose sa nécessité. Depuis son double AVC, on sait que Keith Jarrett ne se produira probablement plus ni en public ni en studio. Nous reste une pluie d'enregistrements solaires, pour la quasi-totalité enregistrés en concert, comme si les sommets ne pouvaient être atteints que par la magie de l'énergie collective. Si ce standard trio nous régala pendant 30 ans, à partir du début des années 80, les années 70 furent remarquées pour Keith Jarrett par deux formats particuliers. D'un côté, il nous a offert 2 quartets successifs, l'un américain et l'autre européen, et de l'autre, c'est aussi dès 71 qu'il s'est plongé corps et âme dans l'exercice du piano solo, dont évidemment le célébrissime Köln Concert en 1975. Mais les concerts en solo, qu'il pratiqua pendant près de 50 ans, procèdent d'un parti pris tout simple. Partir d'une page blanche. Aucune mélodie prévue, aucun choix harmonique préalable, aucune option rythmique choisie. C'est le miracle de la grâce, mais elle n'est jamais assurée, cette grâce. Parce que lorsqu'il touche cet état d'apesanteur, enfin un état d'envoûtement ou d'extase, Keith Jarrett explique qu'il se sent, je le cite, « traversé par la musique, elle s'impose à moi comme tombée du ciel ». À partir de 1983, Jarrett a essentiellement réduit son champ d'action à 2 formules, en dehors de quelques exceptions sur la musique classique, le solo et le trio, avec un effet de miroir inversé. En solo, il a continué à jouer le jeu de l'improvisation totale, mais lors des rappels, il offre deux ou trois standards. Avec le trio, par contre, c'est l'inverse. Le répertoire est constitué de standards, comme le nom du trio l'indique, mais en rappel, les trois musiciens se lâchent sur une improvisation collective, nourrie d'exaltation et flirtant volontiers avec la transe. Des moments tellement intenses qu'un album entier, Changeless, fut consacré au rappel de la tournée américaine d'octobre 1987.
Le piano, c'est un instrument qui est gros, qui est grand, et le dominer a toujours été une de mes ambitions principales.
Michel Petrucciani, 1962-1999, un phénomène, un feu follet, une urgence de chaque instant. Atteint par la maladie des os de verre, il se savait condamné à une vie courte. Il est mort à 36 ans, en ayant dévoré la vie et la musique avec voracité, et un immense talent de pianiste, une profonde connaissance de ceux qui l'avaient précédé. Pour Michel Petrucciani, c'est Bill Evans pour l'harmonie, Herbie Hancock pour l'intelligence rythmique, Chick Corea pour l'énergie, mais une approche enjouée chez Petrucciani, malicieuse, jubilatoire, qui prenait les 88 touches pour un terrain de jeu. Le piano de Michel Petrucciani, c'est un geyser aux couleurs d'arc-en-ciel, tendre quand ça lui chante, vibrant toujours. Jerry Allen, 1957-2017, elle est l'une des plus brillantes héritières de Marie-Lou Williams, en la mémoire de qui elle montera d'ailleurs un collectif pour célébrer les compositions. Et comme sa référence, Jerry Allen est à la fois ancrée dans la tradition et ouverte à toutes les explorations. Elle fera constamment des allers-retours entre ces deux pôles. Ainsi, après avoir reçu l'enseignement de Kenny Barone, elle s'immerge dans le mouvement Embez, créé par Steve Coleman, et elle accompagnera aussi bien la chanteuse Betty Carter, Cornette Coleman ou le trompettiste Wallace Roney. En trio, elle choisit de travailler avec des rythmiques de grande classe, Ron Carter et Tony Williams, Dave Holland et Jacques Dejonette, ou comme ici, Charlie Haden et Paul Motion. Tiens, c'est justement Charlie Haden qui révéla internationalement Gonzalo Rubalcaba, né en 1963. En 85, Dizzy Gillespie, fin connaisseur en jazz latino, l'avait déjà repéré. Fils et petit-fils de musiciens, avec deux frères également musiciens, Gonzalo Rubalcaba commença par la batterie à 6 ans dans l'orchestre de son père, avant de passer au piano 2 ans plus tard pour faire plaisir à ma mère, expliqua-t-il. En 1986, à 23 ans, et lors de son séjour à la Havane, Charlie Haden est subjugué par le jeune prodige qui lui rappelle la vélocité d'Art Tatum et Bud Powell. Il convainc Bruce Lundvall, le patron de Blue Note, de le signer sur le label. Gonzalo quitte alors Cuba, séduit les plus grands festivals, Montréal, Montreux, avant d'enchaîner une belle collection de Grammys et de prix internationaux. D'abord époustouflant de virtuosité, Gonzalo Rubalcaba a peu à peu élagué son discours pour distiller aujourd'hui un des touchés les plus subtils et délicats que l'on connaisse, arrachant chaque note au silence intérieur ou au pianissimo. Cuba est un territoire fertile pour les pianistes, école russe oblige bien sûr, mais aussi pour un patrimoine musical tellement vivant qui se transmet de génération en génération. C'est le cas pour Chucho Valdés. Il est né en 1941, il est le fils de Bebo Valdés, l'un des créateurs du jazz afro-cubain, et avec 60 ans de carrière au compteur, après avoir créé l'orchestre Irakere au passage, Chucho Valdés est devenu la figure tutélaire du jazz made in Cuba. Avec son 1m94, Chucho a la stature et les paluches de Oscar Peterson. Même puissance dans les poignets et les doigts, même assurance pour diriger ses ensembles depuis le piano. À l'état civil, Chucho se prénomme Dionysion Ressos, l'association du dieu grec des plaisirs et du messie prêchant ses apôtres. Exactement l'autoportrait de Chucho.
Jazz Collection, le piano jazz, Alex Dutil.
Comme au Danemark voisin, il y a une vraie tradition du jazz en Suède. Dans les années 60, le pianiste Jan Johansson choisit des chansons traditionnelles suédoises plutôt que des standards de Broadway pour livrer un jazz différent. C'est donc décomplexé que Esbjörn Svensson, 1964-2008, va débouler dans le paysage scandinave. Ça sera en 1993, à la tête d'un trio qui va révolutionner le genre. EST, pour les initiales d'Esbjörn Svensson Trio, avec son ami d'enfance Magnus Öström à la batterie et le bassiste Dan Berglund. Plus un quatrième homme, Åke Linton, ingénieur du son, qui au cours des concerts et des séances en studio, va les aider à définir un son de groupe résolument neuf aux confins du jazz, de la pop et de la techno. Un public rajeuni, un sens mélodique confondant, une attention très fine à la matière sonore, les albums vont se succéder avec bonheur sur le label allemand Act, qui propulse EST sur tout le continent européen et bien vite au-delà. La trajectoire du trio EST prit fin en 2008 à la mort d'Esbjörn lors d'un accident de plongée au large de Stockholm. Il avait 44 ans. Lors d'une interview à la radio suédoise, Esbjörn Svensson avait décrit ainsi les avant-concerts de EST. Et le soir vient enfin. D'habitude, on se retrouve dans la loge. Les baguettes de Magnus sont contre ses jambes. Ecke est en train de parler, de dire quelque chose à propos des différents systèmes de sonorisation ou de se plaindre des États-Unis et de Bush. Dan et moi sautons de haut en bas pour mettre notre énergie en marche. Puis on monte sur scène, on rencontre le public, la musique. Intemporelle, sans programme, sans setlist. Nous voulons être ouverts à ce qui nous convient. Parfois, rien ne vient à l'esprit et c'est frustrant. Mais les choses marchent toujours bien et ça en vaut la peine. Parce que quand ça marche, on peut tout simplement suivre le courant. Alors, c'est la musique qui nous porte et nous nous rendons disponibles. C'est fantastique, presque religieux, je suppose. Tout d'un coup, nous nous entendons jouer des choses que nous n'avons jamais jouées auparavant, jamais imaginées auparavant. Et soudain, la couleur revient à la vie. Gustafsson, lui est né en 1970, il est norvégien et c'est une figure de l'autre label allemand, ECM, dans un genre différent, tout aussi singulier qu'Esbjörn Svensson. Tord Gustafsson, qui s'en est expliqué dans une interview de 2007 à Citizen Jazz, il disait ceci: « Ma musique est sans doute en grande partie empreinte de negro spirituals et de chants religieux. On a même parlé de gospel abstrait. On retrouve cette influence de manière évidente dans la structure de certains de mes morceaux, comparable à celle de Cantique, mais d'une manière moins visible aussi, on la retrouve dans le flux d'énergie. Certaines lignes de piano ne sonneraient sûrement pas pareil si je n'avais pas assidûment fréquenté, quand j'étais enfant, gospel et chants religieux dans ma formation musicale. » Et Tord Gustafsson rajoute, pour expliquer le côté méditatif de son approche mélodique, « Silence et passion me sont nécessaires. J'ai besoin tout à la fois de calme et de plénitude dans ma vie comme dans ma musique. » Exactement de la même génération, puisque né en 1970 lui aussi, Brad Meldow, ou Meldau selon sa prononciation à lui, probablement le pianiste le plus influent des dernières décennies. Brad, qui est un enfant adopté, fan de pop et de rock à la radio, des études de piano classique, il a eu la révélation du jazz à l'écoute de Coltrane et d'Oscar Peterson, et du potentiel créatif du piano à l'écoute de Bremen Lausanne, le double album de Keith Jarrett en piano solo. Brad, à 23 ans, en 1993, quand il monte son premier trio et participe au quartet de Joshua Redman. On le croise alors au club parisien La Villa, où une poignée d'irréductibles viennent l'écouter soir après soir, convaincus que « a star is born ». Ils vont pas être déçus. Peu après, Brad inaugure, avec Larry Grenadier à la contrebasse et Jorge Rossi à la batterie, une série d'albums audacieusement intitulés, je dirais presque impertinemment intitulés, The Art of the Trio, l'art du trio. Qu'il y soit interprète ou compositeur, Brad Meldo ébloui par la délicatesse de son jeu, de sa capacité à faire chanter les doigts, à ouvrir l'émotion à cœur ouvert. Délicat pour un pianiste de se lancer dans l'épreuve du solo. Beaucoup s'y sont cassés les dents pour ne pas avoir attendu la maturité nécessaire. Autant ses albums en trio ont été immédiatement enthousiasmants pour Brad Meldo, autant il a fallu attendre un peu pour que le même sentiment de plénitude soit au rendez-vous des solos. L'acte de naissance mentionne peut-être l'été 2006 au Festival de Marciac. C'était un album qui a fait beaucoup parler de lui, et depuis, la solitude va comme un gant à ce grand romantique qu'est Brad Meldo. En 2005, Brad Meldo a fait évoluer son trio en changeant de batteur. Ce sera désormais Jeff Ballard, qui était passé notamment chez deux amis de Brad, Pat Metheny et Joshua Redman. Larry Grenadier, lui, est toujours inamovible sur sa contrebasse au son boisé. Après l'art du trio, il semble que ce soit le temps de l'or du trio. La pianiste canadienne Chris Davis, née en 1980, s'est installée à New York à 21 ans en déclarant dans la foulée au New York Times « J'ai décidé de ne plus jouer d'accords, mais seulement des lignes ». Elle s'affirme d'abord comme compositrice et va multiplier les formules orchestrales avec tout ce que la scène downtown new-yorkaise compte de talents rebelles et alternatifs. Et puis, peu à peu, c'est la Chris Davis pianiste, brillante, décalée, originale, qui apparaît en pleine lumière. En 2016, elle intègre la tribu de John Zorn pour jouer ses bagatelles. Dans la foulée, elle travaille avec la guitariste Marie Halvorsen ou son confrère Julian Lage. la batteuse Terry Lynn Carrington, la saxophoniste Ingrid Lobrock ou la chanteuse Esperanza Spalding. Bref, Chris Davis est désormais au cœur du cyclone de la scène créative new-yorkaise et fondant le label indépendant Pyrolastic Records comme une maison d'accueil pour cette famille musicale. Chris Davis ou l'imagination au piano. Clôture de cette série sur le piano jazz, un pianiste symbole du siècle écoulé, Abdoulaye Baïm. Il est né en 1934, il s'appela d'abord Dollar Brand. C'est un pianiste sud-africain, originaire du Cap, une ville qui l'a profondément marqué. Il s'exilera en 1960, se fera remarquer par Duke Ellington dans un club de Zurich en février 1963. Sa femme était allée voir Duke à la fin de son concert au Palais des Congrès de Zurich en le suppliant de passer écouter le trio de son mari en club. Duke l'a suivi et fut emballé par cet autre continent du jazz qui s'offrait à lui. Ni une ni deux, il leur a proposé de prendre le train avec lui le lendemain pour Paris où il avait un studio à sa disposition. Ils pouvaient produire leur premier album. Ce serait Duke Ellington Presents the Dollar Brand Trio. La carrière de celui qui allait devenir Abdoulaye Baïm était lancée. Après la fin de l'apartheid et l'installation de Nelson Mandela au pouvoir, Abdoulaye Baïm est revenu s'installer au Cap, où il a ouvert une école où l'on pratique simultanément l'aïkido et le jazz. D'une profonde spiritualité, la musique d'Abdoulaye Baïm est extrêmement populaire au Cap. J'y ai vu une salle de 2000 personnes accompagner chacune de ses compositions à mi-voix quand il était sur scène. J'en ai encore des frissons. Abdoulaye Baïm ou le piano jazz universel. C'était le quatrième et dernier épisode de la série Piano Jazz dans la Jazz Collection de France Musique proposée par Alex Dutille. Prise de son et mixage Valérie Lavalard, attaché de production Emmanuel Lacaze, réalisation Pierre Villers.
France Musique.